Et cette semaine, dans les conversations avec Daniel Haber, Blaise van der Linden revient avec lui sur les sommets qui ont eu lieu durant le mois d'août et ce que cela a pu changer dans l'ordre mondial. Voici donc Daniel Haber qui répond aux questions de Blaise van der Linden.
Daniel Haber, bonjour.
Bonjour Blaise et bonjour chers amis.
Merci d'être avec nous ce matin sur Radio Judaïka pour nos traditionnelles conversations du lundi matin 7h15. Alors Daniel, pendant ce mois d'août, on a assisté à deux sommets, deux grands sommets qui ont plus ou moins clarifié la situation mondiale. Alors pour commencer, Daniel, pouvez-vous nous exposer les principaux éléments de cette clarification et les conclusions qu'on a pu tirer autour de ces deux sommets?
Oui, comme vous le dites, la géopolitique n'a pas pris de vacances. Et donc ces deux sommets qui étaient indépendants l'un de l'autre, par leur proximité, ont généré une image d'une sorte de nouvel ordre mondial qui se réorganise sous nos yeux. Et on peut en tirer au fond quatre conclusions. La première, c'est ce que j'appellerais la fin d'une illusion. Trump a donné comme priorité l'idée de ramener la Russie dans le giron occidental. C'était une stratégie qui peut probablement mériter d'être tentée. Donc il l'a faite, et il l'a faite de façon intelligente. Quand on veut séduire Poutine, il faut lui donner des gages. Donc il lui en a donné beaucoup, il lui a donné ce qu'on appelle de la face, il lui a donné de la compréhension en disant oui, nous Occidentaux sommes en partie responsables de vos angoisses sécuritaires, on n'a pas forcément bien géré la fin de l'Union soviétique, et puis on est prêt à vous donner des gages, y compris des morceaux de l'Ukraine, et des garanties de sécurité pour l'avenir. Tout ce qu'on vous demande, c'est la guerre et organisons la paix et même la coopération économique, vous verrez, très gagnant. Et donc cette séduction, Poutine y a mis fin, clairement. Et donc là, je pense que Trump ne se fait plus d'illusions. Poutine l'a fait parce qu'il s'inscrit dans une tradition de la Russie qui a toujours eu à opter entre regarder à l'ouest ou regarder à l'est, regarder l'Europe ou regarder vers l'Asie. Et le regard vers l'Asie est maintenant, je dirais, ancré. D'abord parce que c'est là qu'il y a les nouvelles puissances économiques comme le Japon et la Chine, et aussi parce que la Sibérie a été beaucoup développée, c'est la source même de la richesse de l'Union de la Russie, et puis l'Arctique qui, avec le réchauffement climatique, est en train de devenir une grande voie de passage mondiale. Donc on voit bien que la Russie, elle, se déploie vers l'Est, mais elle est intéressée par consolider son ouest, son glacis qu'elle avait du temps de l'Union soviétique et des tsars, qu'elle a perdu avec l'indépendance d'un certain nombre de pays. Et donc ce qu'elle veut, on le sait clairement, hein, c'est non pas réintégrer tous ces pays qui vont rester indépendants, mais les neutraliser, faire avec l'Ukraine et avec les autres ce qu'elle a réussi à faire avec la Biélorussie, faire de la biélorussisation de tous. Voilà, ça c'est ce qu'on peut dire de la politique de Poutine, avec en plus l'Asie centrale qui est le flanc sud de la Russie qui s'est aussi rendue indépendante, les cinq pays en stand. Et donc justement pour gérer ces pays-là, c'est pas une neutralisation que la Russie a cherché, c'est une cogestion avec la Chine. D'où la création, au moment où Poutine est arrivé, en 2001, de l'Organisation de coopération de Shanghai. Et justement, le deuxième grand sommet, c'était un sommet à Tianjin de cette Organisation de coopération de Shanghai. Et le deuxième élément qu'on a vu, c'est que cette amitié sans limite que la Russie et la Chine s'étaient promises en février 2022, à Pékin, devant une autre parade militaire que cette fois organisée par Xi Jinping, cette amitié sans limite, ben elle se poursuit. Elle était extrêmement visible. Et puis la troisième conclusion qui a sauté aux yeux, c'est que Xi Jinping est devenu le centre d'une vaste coalition, d'un vaste groupe qui comprend tous les grands pays contestataires comme la Russie, comme l'Iran, comme la Corée du Nord, mais qui a aussi réussi à intégrer ce sud global dont on reparlera parce qu'il est extrêmement compliqué à identifier, y compris des pays au fond démocratiques qui qui sont proches de l'Occident, comme l'Indonésie, au milieu d'émeutes qui agitent son pays, le président de l'Indonésie est quand même venu assister aussi bien à Tianjin qu'à Pékin, au grand raout qui était organisé. Et puis dernier élément, cerise sur le gâteau, l'Inde. L'Inde qui est venu, Modi est venu en personne à Tianjin. Il est parti pour le défilé parce qu'il faut pas en faire trop. Et pourquoi il était là, Modi? Parce que ça, c'est lié justement au premier sommet, celui d'Anchorage. À partir du moment où Trump a compris que avec Poutine, c'était la fin de l'illusion, il a commencé à vouloir punir la Russie par d'autres sanctions. Et donc, il s'en est pris à l'Inde, qui aide la Russie à contourner les sanctions en lui achetant beaucoup de pétrole, plus que l'Inde a besoin pour le revendre. Donc il a demandé à l'Inde de cesser. Ils ont refusé, donc il lui a imposé des droits de douane de 50%. C'est une gifle terrible à l'Inde qui immédiatement, elle qui tente de maintenir une sorte d'équilibre entre les deux groupes, est allée faire allégeance apparente à Xi Jinping. Voilà un petit peu les éléments épars qu'on peut réunir après ces deux sommets.
Alors, comment est-ce qu'on peut définir justement le profil de ce nouvel ordre mondial en synthétisant?
Ben, ce qui saute aux yeux, c'est que les deux camps, ou qui sont pas encore des blocs, sont déséquilibrés parce que le camp mené par Xi Jinping, dont vous avez remarqué le costume Mao, ça c'est une image très forte, hein, un magnifique costume Mao qui tranchait avec tous les autres qui étaient en costumes occidentaux, et il a imposé le modèle chinois à tout le monde. Ce camp-là, il a l'air dynamique, il a l'air jeune, il a l'air ambitieux, il a pas peur. Et en face, vous avez un camp qui n'est plus un camp, puisque Trump s'est acharné à détruire son propre camp en s'en prenant à tous ses alliés, en les transformant, en voulant les vassaliser, ce qui entraîne évidemment des difficultés. Donc vous avez deux camps assez déséquilibrés, mais rien n'est joué encore. D'abord parce que dans le camp mené par Xi Jinping, il y a certainement des facteurs de division qui restent, y compris entre la Chine et la Russie. Et dans le camp occidental, malgré la division apparente, et d'autres sujets qui divisent comme le numérique, il y a quand même des facteurs d'unité liés à l'histoire et liés à la civilisation. Donc rien n'est encore dit, mais on a quand même deux camps très déséquilibrés pour l'instant, et donc on a un désordre mondial qui s'installe.
Quel impact cela pourrait-il avoir justement sur la situation au Moyen-Orient et puis principalement sur Israël?
Écoutez, la réponse est simple. Pour ces deux camps, le Moyen-Orient est un morceau essentiel, est une des clés. Pour le camp de Xi Jinping, le Moyen-Orient, qui est une région au fond qu'ils connaissent mal, est une clé parce qu'il est au cœur de tout le projet de Xi Jinping de créer une vaste Eurasie. Avec quatre continents, l'Asie, l'Europe, la Russie et l'Afrique, ce vaste grand continent, dont l'Asie centrale est une des clés, d'où l'Organisation de coopération de Shanghai, mais où le Moyen-Orient est aussi une des clés. Et donc, il faut que la Chine y soit de plus en plus présente. Et or, ce qu'on constate, c'est que au Moyen-Orient, c'est plutôt les Américains qui ont réussi à imposer leur maîtrise, d'une part par des accords très anciens entre Roosevelt et l'Arabie Saoudite, qui ont été renouvelés par Trump, et aussi par l'appui des Américains à Israël, qui est de plus en plus marqué depuis, disons, la guerre de 73, hein, Kissinger, et on l'a vu avec la guerre des 12 jours, qui a marqué une sorte de co-belligérance entre Américains et Israéliens face à l'Iran. Donc voilà, il faut trouver une organisation du Moyen-Orient qui permette à l'Occident de garantir l'équilibre et de garantir à Israël sa stabilité. Donc c'est ce qui est en jeu dans les semaines qui viennent, et en particulier cette tentative de la France avec l'Arabie Saoudite de gérer l'avenir de cette région en lui donnant une chance de paix. Et donc on verra très dans les prochains jours, hein, à New York, qui va devenir le centre de notre intérêt, hein, à l'Assemblée générale de l'ONU. Il va se passer beaucoup de choses, pas forcément faciles pour Israël. Et donc, c'est en observant et en les commentant ensemble qu'on y verra plus clair sur cette clé qu'est le Moyen-Orient pour les deux camps.
Daniel Haber, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin sur Radio Judaïka. On se retrouve lundi prochain pour de nouvelles conversations.